Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Rencontre mensuelle avec notre évêque, Monseigneur Marc Haillé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Bienvenue à tous les auditeurs. Monseigneur Marc Haillé, bonjour.
Bonjour.
Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication, bonjour.
Bonjour.
Nous allons aborder différents thèmes, nous allons revenir sur plusieurs événements, nous allons parler de l'actualité et nous allons aussi avoir tout un chapitre sur la pastorale des vocations et les jeunes. On parlera également du rassemblement diocésain qui se profile le 12 juin, famille en fête, et vous évoquerez aussi en ce mois de mai la figure de la Vierge Marie. Alors Monseigneur Marc Haillé, pour commencer, revenons sur l'événement important qui s'est déroulé le 1er mai à Rome. C'était la béatification du pape Jean-Paul II, vous n'y étiez pas.
Non, je n'y étais pas, à mon grand regret, si je puis dire, puisque j'avais déjà pris un engagement de présider la fête de la miséricorde divine au sanctuaire d'Ars, où j'avais été invité par le recteur de ce sanctuaire de longue date. Mais en tout cas, j'ai pu suivre quand même, et nous étions tout à fait en communion avec ce qui se passait à Rome, avec plus d'un million de fidèles, d'après la police, c'est dire... pour participer à cet événement effectivement exceptionnel dans la vie de l'Église, je dirais exceptionnel à plus d'un titre. D'abord à cause de la rapidité avec laquelle cette béatification a été acquise, même si le procès n'en a pas été moins rigoureux et l'enquête tout à fait sérieuse, comme pour toute béatification ou toute canonisation. Mais c'est vrai que le pape Benoît XVI avait tenu à ce que le délai normal des 5 ans soit abrogé pour hâter cet événement, on se souvient tous, évidemment, pour ceux qui ont participé comme moi aux obsèques de Jean-Paul II dans une grande atmosphère de JMJ, que l'on a retrouvé d'ailleurs le dimanche 1er mai sur la place Saint-Pierre, où les fidèles scandaient avec des grandes banderoles « Santo subito », c'est-à-dire « Saint tout de suite ». Le deuxième caractère exceptionnel de cette béatification, c'est que c'est l'immédiat successeur de Jean-Paul II qui a procédé à cette reconnaissance de l'Église. Et j'imagine en effet l'émotion de Benoît XVI, qui a été tout de même durant 23 ans le collaborateur le plus étroit du pape Jean-Paul II, et certainement le confident de ces grandes décisions qui ont orienté l'Église et qui l'ont fait entrer en particulier dans le troisième millénaire. Et je crois que c'est important d'être souligné parce que ça manifeste encore mieux la grande unité qu'il y a entre ces deux hommes, que l'amitié, en effet, fidèle a lié pendant des années, mais aussi la grande unité entre leurs deux pontificats. C'est dans une grande continuité que Benoît XVI continue à guider l'Église comme successeur de Pierre. Et j'aime rapporter cette parole du cardinal Thoran, un bordelais, qui fut un collaborateur aussi étroit du pape Jean-Paul II et qui le demeure pour Benoît XVI et qui dit « Jean-Paul II a redonné à l'Église sa visibilité et Benoît XVI lui redonne son intériorité ». Et on voit que les deux sont évidemment liés puisque cette manifestation visible du Christ et de l'Église à travers le pontificat si riche de Jean-Paul II s'est enracinée dans une très grande vie intérieure qui transparaissait ou qui transpirait de tout son être.
Revenons un peu sur la Semaine Sainte. Où étiez-vous pour la Semaine Sainte? Et d'abord, vous aviez invité tous les prêtres du diocèse à une journée sacerdotale le lundi saint.
Voilà, nous sommes entrés ensemble, et dans la Semaine Sainte et dans le Triduum Pascal, à quelques jours de distance, le lundi saint, 18 avril, à la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, pour une journée des prêtres un peu, j'allais dire, extraordinaire par rapport à l'habitude, dans la mesure où les prêtres se sont retrouvés d'abord à la maison diocésaine pour un repas festif, pour manifester justement cette fraternité sacerdotale, et puis pour une après-midi d'échanges et de réflexions que j'avais mises sous le signe de la communion, de la spiritualité de communion, qui me tient tant à cœur, et qui constitue d'ailleurs le troisième chapitre de ma lettre pastorale, que j'ai donc introduit avec... pendant quelques minutes, et permettant ensuite, après un 6-6, comme on dit, dans les rassemblements ou dans les réunions, qui a permis des questions et aussi des témoignages de la part des prêtres. Et À la fois, il y a eu des questions auxquelles j'étais appelé à répondre, mais aussi et surtout, j'ai senti des prêtres qui donnaient un témoignage édifiant pour tous. Et je crois que c'est un bel exercice qu'il faudra refaire, non seulement parce qu'il libère la parole, et c'est important que la parole soit libérée entre nous de plus en plus, mais aussi parce qu'il permet l'échange des témoignages des uns et des autres, le partage, et qui ne peut faire que grandir la communion au sein de notre diocèse, et en particulier entre les prêtres. Et puis qui s'est conclu par une magnifique célébration, préparée comme d'habitude par le service diocésain de pastoral liturgique et sacramentelle, parfaitement menée par l'abbé Jean-René Prédaigne, qui en est le responsable, et où la cathédrale était bien pleine. L'horaire, en effet, en soirée, permettait en effet une belle participation des fidèles à cette messe chrismale, hein, qui est la messe des saintes huiles, hein, qui sont bénites et consacrées et qui sont les signes justement de ce peuple de Dieu qui est un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. Et je tiens à saluer aussi la participation nombreuse des prêtres du diocèse pour cette belle journée.
En Monseigneur Haillé, où étiez-vous pour le Triduum Pascal ?
Alors j'ai commencé le jeudi saint, comme à l'accoutumée maintenant, par la messe à la maison d'arrêt de Pau, le matin dans le quartier des femmes et l'après-midi dans le quartier des hommes. Et je suis toujours très ému de pouvoir refaire ce geste du lavement des pieds avec les détenus. Donc ça, c'est une belle expérience, évidemment spirituelle pour tous. Et puis le jeudi saint au soir, où les séminaristes m'ont rejoint, j'ai célébré la messe de la scène du Seigneur, donc, à Oloron, donc dans le Béarn. Le lendemain, vendredi saint, j'ai présidé le chemin de croix, qui était une innovation dans le centre-ville de Pau, dans les rues de la ville, de manière très simple, très recueillie, très paisible. C'était une belle manifestation de foi, je crois, du peuple chrétien, là, qui a rencontré d'ailleurs un accueil tout à fait paisible dans les rues de la ville, et puis la célébration de la Passion à l'église Notre-Dame, donc de la paroisse du Christ Sauveur de Pau. Ensuite, la vigile pascale a eu lieu à l'église Sainte-Croix de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Bayonne, avec le baptême de deux adultes, une très belle cérémonie aussi, très, très simple et très joyeuse, évidemment très émouvante, hein, quand deux adultes qui disent avoir rencontré le Christ dans un monde sécularisé comme le nôtre, qui vit un peu sans Dieu, élevé dans des familles où ils n'ont pas beaucoup entendu parler de la foi, et voilà que ils ont été saisis par une rencontre avec le Christ qui les a appelés au long d'un long chemin de préparation qu'on appelle le catéchuménat, et bien à recevoir les trois sacrements de l'initiation chrétienne. Et puis enfin, le dimanche de Pâques, j'étais à la cathédrale, évidemment, Sainte-Marie de Bayonne, avec grand, grand concours de peuple, et je crois que les curés s'accordent à dire que d'année en année, on voit cette messe de Pâques de plus en plus fréquentée, avec des foules assez débordantes, hein, qui montrent combien c'est vraiment le jour où les chrétiens, qui sont parfois occasionnels ou qui ont déserté nos assemblées, eh bien, se rappellent quand même que le fondement de notre foi, c'est que le Christ est mort et ressuscité pour nous.
Monseigneur Haillé, à cette messe de Pâques à la cathédrale de Bayonne, c'est la première fois que vous présidiez la messe en tant que membre de la confrérie du jambon de Bayonne maintenant.
Oui, donc j'accueille très volontiers à la cathédrale les confréries, en particulier la confrérie du jambon, à laquelle j'appartiens maintenant depuis les dernières fêtes de Bayonne. Et je crois que c'est important parce que cette foire au jambon qui peut parfois porter à quelques controverses, a été institué, comme vous le savez, au Moyen-Âge, et c'est même Louis XI qui, par un décret, a autorisé que l'on vende le jambon le vendredi saint aux paysans du labour, de manière à ce qu'ils puissent dignement décarémer, c'est-à-dire rompre le jeûne, le jour de Pâques, ce que je me suis amusé à rappeler à la fin de la célébration.
Monseigneur, le mois de mars et le mois d'avril ont été assez riches en événements dans le diocèse. Beaucoup de ces événements ont concerné des jeunes. Je pense par exemple au grand rassemblement qui a lieu à Montardon au début du mois d'avril, le 3 avril, des élèves de 6e pour le Béarn, mais plus particulièrement au rassemblement organisé par la pastorale des jeunes auquel vous étiez présent. Le 26 mars pour les jeunes qui se retrouveront certainement pour les JMJ au mois d'août prochain, 300 jeunes du diocèse, et pour les collégiens, environ 200 collégiens à Saint-Palais, quelques temps après, le 9 avril. Vous étiez présent dans les deux cas. Quel est votre sentiment après ces deux journées qui ont enthousiasmé les jeunes ?
Alors d'abord, ma satisfaction et mon action de grâce pour le travail remarquable accompli par la pastorale des jeunes du diocèse, sous la houlette de l'abbé Jean-Paul Martinon et de son adjoint, l'abbé Dominique Nalis, mais aussi avec toute une équipe qui les entoure, pour animer cette pastorale des jeunes, et en particulier avec cet événement phare qui se profile maintenant à l'horizon proche, et que sont les JMJ de Madrid en 2011, avec ces jours d'accueil de 1200 ou 1400 jeunes étrangers dans notre diocèse avant de faire route vers Madrid à la rencontre de tous les jeunes du monde entier autour du Saint-Père, Benoît XVI. Donc d'abord, ça, c'est une belle chose, et cette journée qui se fait en diocèse chaque année, de JMJ, qu'on appellera cette année JDJ, Journée diocésaine des jeunes, a eu lieu le 26 mars à Pau, dans une excellente atmosphère, et est certainement une pierre miliaire dans le chemin qui nous conduit à Madrid. 300 jeunes, en effet, dans une atmosphère extrêmement festive et en même temps extrêmement priante. J'aime dire le contraste qu'il y a toujours entre cette veillée festive, avec pas mal de décibels, pas mal d'agitation, qui correspond bien à la jeunesse et qui exprime ainsi sa vitalité, et à côté, cette chapelle d'adoration et ces prêtres qui attendent pour confesser et qui n'attendent pas beaucoup parce que ce sont plutôt les jeunes qui sont en file d'attente, et la chapelle d'adoration qui toute la nuit toute la soirée jusqu'à minuit ne désemplit pas, voilà, et ça se termine par un petit temps de prière devant le Saint-Sacrement exposé qu'on apporte là en procession avec des jeunes qui l'encadrent avec des lumières dans le gymnase où tous les autres sont rassemblés, enfin tous les jeunes sont rassemblés. Et un petit moment de silence très émouvant, très impressionnant, qui montre justement cette vitalité, ce besoin de partager, de se retrouver ensemble, de faire la fête ensemble, qui caractérise évidemment la jeunesse, et puis ce besoin d'intériorité aussi qui les traverse, et qui est vraiment aussi l'objectif de la pastorale des jeunes, qui est vraiment de rencontrer le Christ dans une expérience d'église. Et que nous avons inauguré aussi pour les 4e 3e, qui, comme vous le savez, j'avais demandé que la pastorale 4e 3e passe à la pastorale des jeunes, et ils ont eu aussi leur JMJ, si on peut dire. Donc ça s'est passé à Saint-Palais, et nous avons eu une très belle journée qui a rassemblé 200 jeunes, c'était la veille des vacances, donc il pouvait y avoir aussi quelques jeunes absents, mais ils ont vécu ça aussi avec beaucoup de bonheur. Un temps à la fois de partage, de témoignage, et puis qui s'est terminé par un très beau petit pèlerinage à la chapelle d'Oyars, et des confessions aussi, et puis une grand-messe dans l'église de Saint-Palais qui a été aussi très très belle.
Un autre événement qui s'est déroulé le 30 avril, vous avez planté un arbre à l'abbaye de Belloc. Pourquoi ?
Alors le 30 avril, et non pas le 1er mai comme c'est d'habitude, parce que le 1er mai tombait un dimanche, c'était la fameuse journée œcuménique de Belloc. Nous retrouvons avec nos frères séparés, à la fois des communautés ecclésiales issues de la réforme protestante et les églises orthodoxes. Cette journée s'est passée sous un beau soleil. Peut-être que le changement de date du 1er mai au 30 avril n'a pas favorisé une participation très nombreuse, mais il s'agissait quand même de célébrer le 50e anniversaire de ces journées de Belloc, qui ont commencé donc à Belloc en 1961, donc avant même l'engagement œcuménique de l'Église catholique, si je puis dire officiel, qui date du Concile Vatican II, quelques années plus tard. Et nous avons en effet, pour manifester un peu cet anniversaire et ce chemin qui a été parcouru dans le sens de l'unité des chrétiens, nous avons arrosé ensemble un olivier qui avait été planté par le frère jardinier de l'abbaye de Belloc, et qui est planté à l'ombre d'un grand cèdre qui avait été planté il y a 25 ans. Monsieur Moller, qui était déjà présent comme jeune aumônier responsable de l'écuménisme dans son diocèse d'Eredax en 1961 pour la première rencontre à Orthès, était là aussi, évidemment, il y a 25 ans, pour ce cèdre, et nous a accompagnés aussi pour arroser cet olivier du cinquantenaire.
Monseigneur, depuis notre dernier entretien sur Radio La Pourdie, vous avez effectué plusieurs visites pastorales sur lesquelles nous souhaiterions revenir. Il y a eu d'abord à Pau, à la fin du mois de mars, du 23 au 27 mars, la visite pastorale à Sainte-Marie-du-Hameau. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors j'ai en effet accompli, depuis notre dernière émission, au moins 3 visites pastorales. La première dans un quartier tout à fait spécifique et particulier, qu'est Sainte-Marie du Hameau, donc au nord-est de Pau, hein, avec le fameux quartier de Louse des Bois. Ce qui m'a permis de voir en effet la présence vraiment active de la communauté chrétienne dans ces quartiers cosmopolites, j'allais dire multiculturels et même multireligieux, avec beaucoup de collaborations et de passerelles, en particulier dans le domaine de la solidarité, hein, et de l'animation des quartiers et des maisons de jeunes. Et de fait, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs qui ne font pas partie de la communauté chrétienne, mais qui cherchent à créer du lien social, créer des passerelles entre les communautés qui ne s'unissent pas toujours facilement. J'ai pu ainsi rencontrer des hommes de très grande qualité qui cherchent aussi à apporter quelque chose en particulier aux jeunes qui sont souvent davantage livrés à eux-mêmes, ce qui est un fait habituel dans notre société d'aujourd'hui, et en particulier dans ces quartiers peut-être plus difficiles. Ça m'a permis en effet d'encourager à cette présence de solidarité à tout ce monde en effervescence, hein, dans ces quartiers. Et ça m'a permis aussi de les encourager dans la mission propre de l'Église, qui est d'annoncer l'Évangile. Hein, Jésus Sauveur, qui, comme disait Jean-Paul II, est vraiment le chemin de l'homme. Hein, si l'homme est la route de l'Église, et c'est pourquoi il faut aller à la rencontre des hommes et participer avec eux et collaborer avec eux à la construction d'une société plus humaine. Mais le Christ aussi est le chemin de l'homme, et c'est pourquoi il nous faut vraiment annoncer le Christ. Et ce fut aussi, évidemment, l'objet de nos partages, de notre réflexion. Et je note en particulier la rencontre avec la communauté des Chaldéens. Vous savez qu'il y a une quarantaine de familles chaldéennes qui viennent principalement d'Irak, dont les arrivées se sont échelonnées d'ailleurs depuis 1993, c'est-à-dire depuis l'après-première guerre du Golfe, mais encore récemment. Et ces chrétiens qui sont obligés de fuir leur pays parce qu'ils ne peuvent pas y vivre librement leur foi, et en butte à l'hostilité. On a vu récemment, donc, à Bagdad, il y a quelques mois, un attentat même meurtrier dans une église cathédrale de Bagdad. Et j'ai vu la vitalité de la foi de cette communauté, qui est un beau signe au sein de cette paroisse, très assidue à la messe du dimanche, les jeunes comme les moins jeunes. 3 d'ailleurs d'entre les jeunes participeront au JMJ, ont été présentés à cette journée du 26 mars à Pau.
Nous reviendrons sur la question de la liberté religieuse à travers le monde dans les questions d'actualité. Poursuivons avec les visites pastorales. Donc après Sainte-Marie du Hameau à Pau, fin mars, vous étiez du 13 au 17 avril sur la côte basque à Hendaye.
Oui, alors là c'est une autre situation. Nous sommes à la frontière donc entre la France et l'Espagne, dans une ville aussi cosmopolite dans le sens où beaucoup d'Espagnols maintenant habitent dans cette ville. D'ailleurs, beaucoup d'Andaillais sont d'origine espagnole aussi, à cause des événements qui ont marqué l'Espagne, évidemment, et qui ont obligé beaucoup à venir en France. Ville qui, paroisse en tout cas, puisqu'elle comprend la ville d'Andaille, le village de Biriatou, le quartier du Rune qui s'appelle Béobi, qui constitue une paroisse de 18 000 habitants à peu près, même si tous les habitants ne sont pas forcément recensés, en particulier nos voisins d'Espagne. Paroisse très, très vivante aussi, où j'ai rencontré aussi beaucoup de réalités, à la fois ecclésiales et humaines. Je pense en particulier à des entreprises que j'ai visitées, et puis à ce château d'Abadi, qui est évidemment un lieu historique, qui marque beaucoup la culture, hein, de cette ville d'Andaille.
Ensuite, vous étiez début mai à Sainte-Foy en Béarn, c'est vers Morlas.
Voilà, alors dans le Béarn, cette fois-ci, en effet, autour de Morlas, 23 communes qui constituent cette paroisse de Sainte-Foy en Béarn, paroisse beaucoup plus rurale, avec quand même un pôle urbain, avec cette petite ville de Morlas, qui est un pôle d'attraction pour l'ensemble de ces communes. Et là aussi, j'ai pu sentir à nouveau le terrain humain à travers la visite de fermes à ces exemplaires, en particulier où un agriculteur transmet à son fils son exploitation. D'autres se mettent en GAEC pour mieux s'armer face à la crise d'aujourd'hui. et une communauté aussi très vivante. Et là, j'ai été très marqué par la qualité des membres de l'EAP, hein, l'équipe d'animation paroissiale, qui constitue vraiment un vrai support fraternel, spirituel, pastoral, pour le curé qui se trouve maintenant à la tête d'une paroisse composée de 23 communes. C'est vous dire aussi les distances qu'il lui faut parcourir pour aller à la rencontre de ses paroissiens et de ses villages dans lesquels se trouve un délégué de village qui assure ce lien, hein, avec la communauté paroissiale et les habitants du village.
Alors, Monseigneur Aillé, au mois de juin, vous ferez une autre visite pastorale. Ce sera en Pays Basque, à nouveau à Saint-Jacques du Baïgoura à Ossès. Nous allons maintenant passer aux questions d'actualité avec Olivier Drapé.
Oui, Monseigneur, parmi les questions d'actualité récentes qui sur le plan national, l'une d'entre elles vous a fait réagir récemment par un communiqué. Il s'agit de l'initiative prise par le gouvernement, par Monsieur Luc Châtel, d'un pass contraceptif pour les jeunes lycéens de seconde. Pouvez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et pourquoi vous avez tenu à publier un communiqué sur ce sujet ?
Alors, j'avais été interpellé quelque temps avant la parution de ce communiqué par les chefs d'établissement du second degré de l'enseignement catholique de notre diocèse, avec lesquels j'ai eu une rencontre très récente, que j'avais suscité d'ailleurs pour pouvoir échanger avec eux sur un certain nombre de questions, et en particulier sur la question de l'éducation sexuelle et affective dans nos établissements d'enseignement catholique. Et un chef d'établissement m'a demandé ce que je pensais de ce pass contraception qui sera distribué gratuitement dans les établissements scolaires de l'Île-de-France, et qui préconise en effet que les mineurs puissent recourir, sans l'autorisation de leurs parents, gratuitement, à ces moyens de contraception, que l'on présente habituellement comme un moyen d'éviter les avortements qui demeurent stables depuis la loi 1975, c'est-à-dire 220 000 par an, sans compter ceux qui sont accomplis par voie médicamenteuse, et en particulier qui connaissent une recrudescence, en particulier chez les jeunes et chez les mineurs. Et ça, ça inquiète aussi les pouvoirs publics. Et la seule solution, semble-t-il, qui soit préconisée par les pouvoirs publics, c'est justement d'augmenter la diffusion des moyens contraceptifs, le fameux tout contraceptif. J'avoue avoir répondu de manière assez ferme et claire, et j'ai senti que les chefs d'établissement me suivaient bien sur cette question. Il y a, je crois, plusieurs raisons qui nous invitent à nous inquiéter face à une telle préconisation, qui est celle sans doute du président de la région d'Île-de-France, mais qui est soutenue explicitement par le gouvernement, puisque vous savez que le ministre de l'Éducation nationale, M. Luc Châtel, était présent pour promouvoir ce pass contraception. Je considère quand même que c'est une intrusion dans la responsabilité propre des parents, car d'une certaine manière, ils sont mis hors jeu dans une question qui est quand même essentielle et dont on sait pertinemment les traumatismes que cela peut conduire chez les jeunes aujourd'hui. Alors que, c'est tout à fait contradictoire, puisque les parents sont de plus en plus invités à prendre leurs responsabilités face aux problèmes de violence scolaire, de délinquance au sein des établissements, etc. D'autre part, c'est une mesure qui est parfaitement démagogique, car on sait bien, et complètement inefficace, car on sait bien, d'après même les rapports de l'IGAS récents, que ce n'est pas la contraception qui empêche l'avortement, qui devient elle-même de plus en plus un moyen contraceptif, y compris pour les mineurs. Donc j'ajoute que l'évêque de Nanterre, qui se trouve pour sa part dans l'Île-de-France et qui peut être concerné pour ces établissements catholiques par cette question, par la voix de son évêque auxiliaire, Mgr Nicolas Brouvet, a écrit spécifiquement aux chefs d'établissement de l'enseignement catholique du diocèse de Nanterre en les invitant à refuser de distribuer le pass contraception dans leurs établissements.
La politique internationale est toujours très, très riche et très mouvementée. Est-ce que vous suivez, Monseigneur, l'évolution de ce qu'on a appelé le printemps arabe et ou la situation éventuellement dans certains pays comme la Libye, la Syrie? Et qu'en pensez-vous, comment voyez-vous l'évolution de la situation, peut-être plus particulièrement pour les minorités chrétiennes de ces pays?
Alors, c'est sûr que pour la Libye et la Syrie, il est difficile de parler de printemps arabe, car ce printemps est plutôt sanglant. On le voit en Syrie où la répression est extrêmement violente. Je crois qu'il y a plus de 800 morts depuis le début des manifestations ou du soulèvement populaire. Et la Libye, on sent bien que le conflit s'enlise et qu'il semble même que M. Kadhafi pousse un certain nombre de Libyens à quitter la Libye pour faire pression sur l'Europe. Hein, et avec toutes les controverses que nous avons connues ces dernières semaines autour de l'accueil, j'ajoute en même temps que même dans les lieux où le soulèvement s'était fait de manière assez paisible et en tout cas peu violente, il y a aujourd'hui de grosses manifestations antichrétiennes qui se perpétuent, en particulier avec l'incendie d'un centre d'église catholique copte en Égypte. Et donc je pense que tout cela doit être regardé avec beaucoup d'attention et peut nourrir une réelle inquiétude sur la convivence sociale qui sortira de ce mouvement populaire allant vers la démocratie. J'ajoute aussi qu'en Syrie, non seulement la répression gouvernementale est très dure, mais les chrétiens sont aussi en grande difficulté. Je recevais avant Pâques une lettre de l'archevêque maronite de Damas, que je connais bien, qui est venu d'ailleurs me visiter ici à Bayonne, et qui me demandait le soutien de la prière des catholiques de notre diocèse pour les chrétiens, en particulier les réfugiés d'Irak, attendant un visa pour d'autres cieux à Damas, et pour les chrétiens de manière générale, qui ne pourraient pas cette année célébrer les fêtes pascales de manière aussi tranquille et visible que d'habitude, où les actes contre les chrétiens se sont multipliés ces derniers temps.
Monseigneur Aillé, la mort de Ben Laden vous réjouit-elle ?
Non, parce que la mort de quelqu'un ne peut jamais réjouir. Ensuite, je pense que c'est vrai que si Ben Laden était vraiment encore la cheville ouvrière du terrorisme international, du terrorisme fondamentaliste musulman, le fait qu'il soit hors d'état de nuire est en effet un soulagement pour tous. Mais je ne suis pas si sûr que Ben Laden était encore la cheville ouvrière de tous les mouvements terroristes qui peuvent se réclamer de lui. Et je ne suis pas du tout sûr que sa disparition change beaucoup la donne dans ce domaine. Peut-être risque aussi de susciter des représailles de la part de certains mouvements terroristes vis-à-vis des Occidentaux, des Américains ou des Français.
Monseigneur Aillé, le dimanche 15 mai, c'est le quatrième dimanche de Pâques, le dimanche du bon pasteur, et c'est la journée mondiale pour les vocations. À cette occasion, chaque année, le pape Benoît XVI délivre un message. Mais vous, en tant qu'évêque du diocèse, on sait votre action pour les vocations sacerdotales et religieuses dans notre diocèse de Bayonne-Escalre et Oloron. Rappelons qu'au mois de septembre, le séminaire Raoult a réouvert. Vous suivez bien sûr la formation des séminaristes et des propédeutes. Alors peut-être tout simplement, où en est-on ?
Alors où en est-on ? Eh bien écoutez, moi je parle évidemment sous contrôle du supérieur du séminaire, l'abbé Jacques de Mespet, qui évidemment assure cette formation au quotidien. Je crois que cette petite communauté s'est bien constituée dans une très grande fraternité entre eux, malgré des différences sensibles entre eux, mais je sens justement un bel esprit de communion qui grandit entre eux, tout simplement parce que les uns et les autres, quelle que soit leur expérience, leur horizon, leur origine, sont vraiment centrés sur le Christ et ont un vrai désir de répondre d'abord à un appel qu'ils ont senti résonner dans leur cœur et qui vient évidemment du Christ. Viens et suis-moi, voilà. Et je trouve ça très beau aussi de les voir continuer cette caravane d'évocation à travers le diocèse et d'entrer dans cette connaissance mutuelle, je dirais cette osmose qui commence à se réaliser certainement entre ces aspirants au sacerdoce qui parviendront au terme si Dieu le veut hein, et si leur discernement se poursuit, et puis aussi les paroisses, les prêtres, les fidèles qui sont forcément touchés par des jeunes qui ont quitté un métier, des études, pour pouvoir répondre à un appel qui a retenti dans leur cœur. Alors c'est sûr que autour de ce séminaire, il y a tout un réseau forcément, hein, à la fois de jeunes, de familles, de priants, je pense à ceux qui porte cette intention particulièrement dans l'adoration perpétuelle à Bayonne comme à Pau, les équipes vocationnelles qui ne sont pas pour autant démobilisées dans les zones territoriales de notre diocèse. Je pense que ça relance certainement un appel, en tout cas que ça recrée une certaine sensibilité à l'appel au ministère presbytéral. Et déjà, je peux dire que au moins 4 jeunes sont déjà déterminés, ont fait une demande explicite pour rentrer en propédeutique à la rentrée prochaine. Et nous mettons en place aussi, comme vous le savez, dans la ligne de cette pastorale des vocations, un internat qui s'appellera l'Institut Samuel. Samuel étant ce petit prophète qui, enfant, dit au Seigneur, sous le conseil du vieux prêtre Élie, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Donc, lieu pour mieux écouter la parole de Dieu pour des jeunes, collégiens pour la quatrième ou lycéens, qui, tout en étant bien insérés dans leur milieu scolaire, les établissements où ils sont scolarisés à Bayonne, dans leur milieu familial, qu'ils retrouvent évidemment tous les week-ends, sauf un week-end par mois, eh bien, peuvent accomplir ensemble un projet de vie chrétienne et peut-être même discerner une vocation sacerdotale. En tout cas, lieu qui peut permettre une disponibilité à l'appel du Seigneur au ministère ordonné.
Vous aurez la grâce et la joie d'ordonner un nouveau prêtre cette année.
Voilà, alors cette année, donc le dimanche 26 juin, j'ordonnerai Armand Payet, que j'ai ordonné diacre l'an dernier à la cathédrale de Lescar. Et cette année, ce sera à Sainte-Marie de Bayonne. Et donc, la joie, c'est vrai, de compter un nouveau prêtre pour le presbytérium, qui est un béarnais pur sucre, et qui pour l'instant accomplit son stage diaconal dans la plaine de Naï.
Donc ce sera le dimanche 26 juin, on peut déjà noter la date, et ce sera l'après-midi à 16h30 ici à la cathédrale de Bayonne.
Voilà, et je voudrais en faire aussi un événement diocésain, un nouveau prêtre pour le diocèse, c'est pour le service du diocèse, et donc c'est pas seulement sa famille, sa paroisse d'origine, les paroissiens qu'il a croisés à travers ses diverses expériences pastorales qui sont concernés, mais tout le diocèse et tout le presbytérium qui accueille fraternellement un nouveau prêtre. Et j'espère que non seulement les prêtres, mais les fidèles se mobiliseront pour pouvoir l'entourer au jour de son ordination.
Vous allez aussi poursuivre avec les propédeutes du diocèse la marche vers Compostelle.
Voilà, sachant que le chemin de Saint-Jacques traversant notre diocèse est quand même une importance fondamentale dans la culture et j'allais dire l'histoire de la foi dans notre diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Et donc, chaque année, je prends quelques jours pour accompagner les propédeutes qui sont invités à faire en tout ou partie, cette année en partie, le chemin de Saint-Jacques pour affermir leur discernement et à assurer encore mieux la fondation de leur vocation. Vocation à suivre le Christ dans la voie du sacerdoce, qui est une vocation à l'itinérance. Il s'agit de prendre son bâton de pèlerin et d'aller à la rencontre des fidèles et des hommes et des femmes d'aujourd'hui.
Monseigneur, le 12 juin prochain, dimanche 12 juin, qui est le dimanche de la Pentecôte, a lieu une initiative nouvelle dans le diocèse et importante, Famille en fête, qui est organisée sous la houlette de la pastorale familiale. De quoi s'agit-il et tous les diocésains sont-ils conviés à cette rencontre à Anglette?
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous savez que l'information commence depuis quelques semaines déjà à passer dans les paroisses à travers un tract, à travers une affiche « Famille en fête » à Notre-Dame du Refuge d'Anglette. Le but est de susciter un rassemblement annuel, s'il est possible, qui soit diocésain, de la famille diocésaine, autour du thème de la famille, parce que c'est vrai que la famille demeure la cellule de base de la société et de l'Église, qu'elle est tellement menacée et qu'elle manque tellement à notre société d'aujourd'hui, y compris à l'Église, pour la transmission des valeurs et pour la transmission de la foi. Et c'est pourquoi ce rassemblement diocésain des familles ou de la famille diocésaine, au sens le plus large possible, tournera autour du thème de la famille. Toutes les générations sont concernées, il y aura des activités pour tous, il y a une équipe, un comité de pilotage qui est en place déjà depuis le début de l'année pastorale et qui travaille assidûment à à la réussite de cette journée qui se conclura par une belle célébration liturgique en tout début d'après-midi, avec la confirmation, puisque c'est la Pentecôte, des adultes de notre diocèse. Donc j'invite, avec beaucoup d'empressement, tous les diocésains à faire en sorte de pouvoir participer à ce grand rassemblement. Je crois qu'on a, l'Église a besoin de se rassembler dans toutes ses composantes. D'ailleurs, il y aura un village de stands où les mouvements, les services, les communautés qui le désirent, et elles sont déjà plus d'une trentaine actuellement à avoir répondu à cette invitation, eh bien pourront se présenter et donner un visage multiforme de notre Église diocésaine.
Ça veut dire que pour le 12 juin, vous invitez les prêtres, les curés de paroisse à supprimer peut-être des messes
pour... Alors ça, je laisse ça à leur discrétion. Je pense que, surtout pour les paroisses les plus proches, il sera bon de pas de supprimer toutes les messes, bien sûr, mais de limiter peut-être le nombre de messes pour permettre une plus grande participation de ceux qui peuvent vraiment se rendre sur le lieu et célébrer ensemble la foi en ce jour de la Pentecôte, qui est le jour vraiment du rassemblement des apôtres autour de la Vierge Marie, et pour accueillir l'effusion de l'Esprit Saint. Et un rassemblement comme celui-là a pour but aussi, dans la communion, eh bien de demander une nouvelle effusion de l'Esprit de Pentecôte sur notre Église diocésaine.
Vous venez de parler de la Vierge Marie, ce sera notre conclusion, puisque nous sommes au mois de mai, mois traditionnellement dédié à Notre-Dame. Alors peut-être un mot sur ce mois de Marie. Vous accompagnez bien sûr tous les mouvements qui proposent le chapelet, qui proposent la dévotion mariale.
Oui, bien sûr. Comme vous l'avez vu dans ma lettre pastorale, j'ai donné pour titre à la conclusion de toute la lettre le même titre que le pape Jean-Paul II, le bienheureux Jean-Paul II, avait donné à sa lettre sur l'Église en Europe, qui nous invitait à relever le défi missionnaire en Europe aujourd'hui. Et ce titre, c'est « Consécration à Marie ». Voilà. Je pense que, comme le Concile Vatican II l'a précisé, au terme de cette belle constitution sur l'Église, la Vierge Marie a une place tout à fait particulière dans la vie et dans la mission de l'Église, et le bienheureux Jean-Paul II, qui lui était si consacré, à travers sa devise en particulier épiscopale et papale, « Totus tuus, je suis tout à toi », reprise de la consécration à Marie de Saint-Louis-Marie-Guillaume de Montfort, qui était vraiment son maître spirituel, eh bien nous a montré combien notre dévotion mariale ne faisait pas nombre avec la dévotion principale du chrétien au Christ. Le Christ reste vraiment le centre de notre vie. C'est lui le rédempteur de l'homme, c'est lui l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, mais Marie précisément nous conduit au Christ, et comme le disait bienheureux Jean-Paul II, le Christ nous conduit à Marie, qui nous montre en effet le modèle achevé de ce que le Christ veut faire par sa grâce dans chacune de nos vies. Alors je crois que c'est l'occasion, ce mois de Marie, bien de recentrer notre foi, notre vie chrétienne sur ce modèle qu'est la Vierge Marie, qui de toute façon ne peut pas nous arrêter à elle, mais nous conduit toujours un peu plus au Christ, qui est vraiment le centre et l'âme de notre vie.
Un mot peut-être sur une prière que vous aimez bien dire à la Vierge Marie. Bon, bien sûr, il y a le « Je vous salue Marie », mais est-ce que vous avez une prière peut-être courte, message que vous aimez adresser à la Vierge?
Alors moi, j'aime beaucoup redire la prière « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ».
Merci à Mgr Marc Caillé, merci à Olivier Drapé, délégué épiscopal à l'information et à la communication. Et je vous signale que cet entretien a été enregistré le mardi 10 mai 2011.
Shema Israël, Audi Israël, écoute Israël, Ensun Israël, escute Israël.
C'était l'entretien du mois avec notre évêque, Mgr Marc Caillé, évêque de Bayonne-Lescar et Oloron. Vous pourrez écouter ou réécouter cet entretien sur notre site internet www.lapourdi.net.